anabastagie, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il est en ligne avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour, c'est un plaisir que de reprendre cette nouvelle année.
Plaisir partagé, bienvenue à vous. Avant de vous donner la parole à Sma, j'invite les auditeurs à poser leurs questions sur l'application Lux Radio.
Hicham Benabastagi, à l'heure où le monde est à la recherche d'un vaccin contre la Covid-19, eh bien les vaccins ne font toujours pas l'unanimité, ça c'est de manière générale. Qu'en est-il en gynécologie? Mais avant de s'attarder sur ce point, quels sont les vaccins importants en gynécologie et à quoi servent-ils?
Alors, les vaccins en gynéco-obstétrique, je dirais, il y a le vaccin de la grippe. Il y a le vaccin de la rubéole, c'est des choses importantes parce que c'est des maladies qui peuvent toucher la femme enceinte. En gynécologie, c'est essentiellement le vaccin anti-HPV et je dirais aussi le vaccin de l'hépatite B parce que l'hépatite B fait un malheur dans le monde et c'est quelque chose qu'il faut être vacciné contre, à mon avis, surtout quand on est professionnel de santé ou dans l'entourage de professionnels de santé. Mais c'est essentiellement en gynéco, c'est essentiellement pour moi le vaccin anti-HPV contre le papillomavirus parce que c'est le vaccin, c'est le virus qui est à l'origine du cancer du col. Et donc, c'est un bon moyen de prévenir nos enfants contre ce fléau qui représente le deuxième cancer dans le monde et au Maroc.
Le cancer du col de l'utérus, mais pas uniquement.
Tout à fait, mais essence, si vous voulez, on sait que 99,8% des cancers du col utérin sont liés à l'HPV. Les autres cancers, cancer de la vulve, cancer ORL, cancer de l'anus, le HPV est impliqué dans 50, 60, 70%. Mais pour le cancer du col, c'est le plus fréquent. C'est le deuxième cancer dans le monde, c'est le deuxième cancer au Maroc. Il y a plus de 600 000 cas annuels. Et donc, c'est vraiment un truc, si on arrive à protéger les femmes contre le cancer du col utérin, c'est déjà, et bien sûr, c'est un bonus que de protéger aussi contre les cancers de la vulve et de l'anus et de la gorge aussi. D'accord.
Voilà. Je vous propose d'ailleurs d'approfondir davantage le sujet des papillomavirus qui, entre la polémique autour du vaccin Gardasil et une certaine méconnaissance de leur potentielle gravité, eh bien, ce groupe de virus fait beaucoup parler de lui. Les chiffres aussi, 600 000 cas annuels, c'est énorme. Pourquoi, malgré les recommandations, il y a si peu de femmes et d'hommes qui sont vaccinés contre justement les papillomavirus?
Pour deux choses. Pour moi, premièrement, peut-être un manque de sensibilisation. Et deuxièmement, il y a des lobbies anti-vaccins, tout vaccin confondu, je dirais, qui, avec Internet, ont la possibilité de se développer et la majorité silencieuse ne réagit pas. Maintenant, pourquoi il y a des polémiques sur le vaccin contre la rubéole, contre la rougeole, contre la grippe? Maintenant, vous voyez, avec le Covid-19, il y a déjà une polémique politique, je dirais, sur ce vaccin qui va venir. Est-ce qu'il est safe? Est-ce qu'il est sécure ou pas? Pour le papillomavirus, je dirais qu'il y a eu beaucoup de choses sur cela. Attention, il peut tuer, il peut donner des effets secondaires graves et tout. Mais je pense que la communauté scientifique a besoin de recul. Et il y a pas mal de recul. Ça fait 10 ans, je pense, que le vaccin existe. Il y a pas mal de recul. Et surtout, on a vu que le...
a besoin de temps aussi pour prouver. Il y a pas mal d'études. Oui. Et des fois, les études sont très différentes les unes des autres.
Mais c'est ce que je vous dis.
Justement, il y a la communauté scientifique a besoin de temps aussi pour prouver certaines choses.
Mais c'est
d'où
pour
la
ça.
Méfiance qui peut exister.
Mais vous avez tout à fait raison. Mais je vous dis, par exemple, maintenant, pour le vaccin anti-HPV, eh ben, ça fait 10 ans qu'il est sur le marché. Et donc, il y a une certaine...
C'est le
Gardasil et le Cervarix. Il y en a trois. Il y a le Cervarix qui protège contre deux valences, contre les HPV 16 et 18 qui sont responsables de 70% des cancers du col. Il y a le Gardasil 4 qui contient du 16-18... Donc pour ces 70% du cancer du col, mais aussi le HPV 6 et 11 qui protège contre les verrues génitales, qui ne donnent pas le cancer, mais qui quand même sont assez, je dirais, horribles et qui sont gênants tant pour les femmes que pour les hommes. Avoir des verrues génitales, des condylomes, ce qu'on appelle des crêtes de coque, c'est assez horrible et ça les dérange.
C'est important de le souligner, voilà. Hicham Benabastagi, juste un petit point, les hommes sont aussi concernés par ces virus,
tout à fait.
Ils sont actifs sexuellement.
Tout à fait, mais si vous voulez, le cancer du pénis est très rare. Donc protéger contre un cancer très rare, c'est peut-être pas un bon rapport bénéfice-coût. Mais maintenant, les hommes sont des vecteurs, et c'est pour ça, et c'est l'idée que je voulais en venir, c'est que maintenant, vous avez des pays qui ont, surtout anglo-saxons, qui ont accepté cette vaccination depuis plus de 10 ans, et qui la font, et qui voient des réductions drastiques de cancer du col, de verrues, de lésions précancéreuses. Et je vous dis, c'est
C'est le
pas
cas des États-Unis et de l'Australie.
L'Australie, je dirais pas les États-Unis, l'Australie. L'Australie, c'est le premier pays qui va arriver à éradiquer, je parle de le terme de éradiquer, c'est-à-dire ne plus avoir de nouveaux cas de cancer du col dans 10 ans. Et c'est extraordinaire de passer de 600 000 cas dans mondiaux à zéro cas grâce à la vaccination, entre autres. Il faut aussi faire des frottis, bien sûr. En fait, le vaccin existe, je vous dis, depuis environ 14 ans, je pense. Je crois que le premier vaccin, c'était 2006 ou 2007, à ma connaissance. Et le vaccin,
2006.
2006. Le vaccin, c'est un moyen d'éviter qu'on attrape le HPV. On se vaccine contre cet HPV. Quand on sait qu'un HPV oncogène, c'est-à-dire qui donne le cancer, sur 1000, va évoluer vers un cancer, c'est un moyen pratique d'éviter d'avoir le cancer. Je dirais, mais le vaccin existe depuis 14 ans, donc on le fait maintenant. Notre génération de femmes actuellement sexuellement actives n'est pas protégée contre le... ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand-chose de la vacciner, je dirais. Par contre, les femmes, les filles de ces femmes... De futures générations. Et malheureusement, moi... allô? Allô?
Oui, je vous
m'entendez.
Écoute.
Je vous dis malheureusement, quand est-ce que j'ai une demande de vaccin? Quand l'entourage, quand on diagnostique un cancer chez une dame de 50 ans, et c'est à ce moment-là que ces filles disent « Ah, mais comment je pourrais me protéger ?» Voilà. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on en parle. Ça n'arrive pas qu'aux autres, le cancer. Et dans la prévention du cancer, bien sûr, je rappelle le frottis cervico-vaginal qui devrait être fait chez toute femme sexuellement active, c'est qui a eu des rapports sexuels, qu'elle soit active ou inactive. Mais je vous dis, comment protéger ces jeunes filles, leurs enfants? C'est justement en les vaccinant contre le HPV.
Et donc, à partir de quel âge?
À partir de 9 ans. Pourquoi 9 ans? Parce que le problème de ce vaccin, c'est une troisième raison peut-être pourquoi il n'est pas, parce qu'il est aussi à connotation sexuelle. Ah, on va éviter une maladie sexuellement transmissible. Et on ne peut pas imaginer, à 9 ans, on va avoir des rapports.
Alors qu'on n'envisage pas encore
voilà.
Mais ce genre de sujet
pourquoi,
à l'âge de 9 ans.
Pourquoi les études ont montré à 9 ans? Pourquoi? Parce qu'il faut le faire longtemps avant l'activité sexuelle. Dans les pays européens anglo-saxons, ils ont vu que l'activité sexuelle commençait à partir de 15 ans. Et donc, ils ont dit, on va commencer à vacciner à partir de 9-10 ans, d'autant plus quand l'âge est jeune, on a une meilleure réponse immunitaire et on a besoin que de deux doses, que de deux injections. Alors qu'à partir, je pense, de 13-14 ans, on a besoin de trois injections. Donc voilà l'utilité de vacciner bien avant les rapports sexuels. Comme ça, vous êtes protégés. Et l'avantage je parlais tout à l'heure, m'avait coupé par rapport, il y a trois vaccins, il y a le Cervarix, il y a deux Valence, il y a le Gardasil 4.
Qui,
oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô?
Il y a des petites coupures, mais allez-y,
d'accord.
Continuez.
Je vous disais, il y a aussi le Gardasil 9 qui est malheureusement pas encore commercialisé au Maroc, mais qui protège contre les verrues génitales et contre 90% des cancers, des souches de cancer. Et donc, c'est quelque chose qui est l'avenir. Et je vous dis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, où ils ont des populations... En Australie, c'est 99% de la population, 90% de la population qui est vaccinée, jeune, parce qu'ils vaccinent à l'école. En Royaume-Uni, je pense que c'est 80%. Maintenant, nous, on est plutôt
médecins. Mais j'imagine que ce sont des vaccins remboursés dans ces
mais
pays.
Mais tout à fait,
justement. Il y a aussi peut-être cet argument.
Mais justement, il y a aussi, en France, c'est remboursé, c'est assuré par la Sécurité sociale. Ils ont pourtant que 20% de la population qui est vaccinée. Parce qu'il y a des lobbies anti-vaccins, il y a une idée anti-vaccin que le vaccin est dangereux, que le vaccin ne protège pas, que le vaccin va avoir des effets secondaires. C'est la même chose sur l'hépatite B. Le vaccin protège. Même si le vaccin a un risque, voyez, les études, qu'est-ce qu'elles vous disent? Bien sûr qu'il y a un risque de sclérose en plaques, de maladies de Guillain-Barré, c'est des maladies auto-immunes, d'excès d'immunité. Vous avez injecté quelque chose pour avoir un développement de l'immunité, mais l'immunité elle s'est tellement développée qu'il y a des maladies très graves. Mais quand on voit en fait l'incidence, enfin la fréquence de ces maladies, vous prenez 100 000 personnes que vous ne vaccinez pas. et vous prenez 100 000 personnes que vous vaccinez, et bien vous constatez qu'il y a une sclérose en plaques, je ne connais pas les chiffres, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, il y a une sclérose en plaques sur 100 000, et bien chez la population vaccinée, vous avez aussi une sclérose en plaques pour 100 000. Voyez, donc voilà les études, et c'est pour ça que je vous dis, les autorités sanitaires de ces pays, avec tout ce recul, eh ben, ils ont décidé de vacciner leurs enfants. J'espère que ça va se faire au Maroc, qu'avec la fondation Lalla Slima, on arrivera à rentrer le vaccin dans le programme national d'immunisation, ça serait génial. Et peut-être que ça ne deviendrait pas, que ça nous diminuerait dans 30 ans nos cancers du col. C'est ça le but.
Message entendu. Hicham El Abestaghi, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Un mot sur les deux autres vaccins importants en gynécologie, celui de l'hépatite B et celui contre la rubéole. Si je ne me trompe pas, ce dernier, c'est-à-dire le vaccin contre la rubéole, est déconseillé chez la femme enceinte car il contient un agent survivant atténué.
Non, il ne faut pas du tout le faire chez la femme enceinte. Il faut le faire avant. Et à ma connaissance, le vaccin contre la rubéole, c'est l'ancien ROR. Rougeole au rayon rubéole, et la majorité des Marocaines et des Marocains sont vaccinés contre la rubéole. Mais il y a des fois où on trouve encore des sérologies rubéole négatives, ce qui fait que la femme n'est pas protégée, alors que la rubéole est une maladie bénigne chez la femme, mais chez la femme enceinte, c'est très grave, parce que ça donne des malformations fœtales graves au début de grossesse, et donc je préfère vacciner mes filles et les filles de toutes les filles marocaines pour éviter qu'elles attrapent la rubéole au cours de leur grossesse. Vous l'avez très bien dit. Oui, vous l'avez très bien dit, c'est contre-indiqué au cours de grossesse, mais il faut le faire avant ou bien au moment du mariage pour être sûr d'être protégé contre la rubéole. Oui. Pour l'hépatite B.
Quels sont les autres vaccins déconseillés pendant la grossesse et jamais la bastage?
Alors, tous les vaccins à base de virus vivant atténué, c'est-à-dire sont contre-indiqués. Mais la plupart des vaccins maintenant, et notamment le vaccin de la grippe aussi, c'est des vaccins faits à partir de particules virales. C'est-à-dire ce n'est pas un virus qu'on vous injecte. C'est juste un antigène, c'est juste une portion du virus non vivante, non active, et qui permet d'entraîner une réaction immunitaire contre cela. Et si je vous rappelle, il y a 3 ans, il y a eu une polémique sur le vaccin de la grippe H1N1. Pendant longtemps, on n'en parlait pas. La grippe, non, ça ne sert à rien de vacciner et tout. Et puis, il y a eu un décès d'une femme enceinte, malheureusement, mais ça a paniqué tout le monde, et tout le monde a commencé à réagir. Est-ce qu'il ne faut pas que je me vaccine? Est-ce qu'il ne faut pas que je me vaccine? Et j'avais appelé un professeur Chakib, c'est un grand maître d'infection. Il m'a dit, mais le vaccin, la souche H1N1 est depuis 4 ans dans le vaccin de la grippe commercialisé au Maroc en début novembre. Et donc, la femme enceinte est un terrain à risque fragile avec une immunité un peu défaillante, et il faudrait la vacciner contre, la protéger donc contre le virus de la grippe. Et je dirais, moi, il ne faut pas trop avoir peur des vaccins. Vous savez, le problème d'Internet maintenant, c'est qu'on écrit tout et n'importe quoi. Et on grandit beaucoup de choses, et l'information est mal diffusée. C'est-à-dire que les informations scientifiques, comme vous dites, ont besoin de temps pour...
Elle n'est pas mal diffusée, c'est qu'il y a peut-être trop d'informations.
Exactement.
Et on ne choisit pas forcément les bons supports.
C'est ça.
C'était justement ma dernière question, Hicham El Abestaghi, mais vous m'avez déjà donné la réponse. Vous recommandez donc la vaccination contre la grippe chez la femme enceinte.
Tout à fait.
Et c'est bientôt. D'ailleurs, la saison.
Tout à fait, exactement. Et moi, je vaccinerai mes enfants et moi-même et toute ma famille contre la grippe, et mes enfants contre le HPV et contre l'hépatite B. Ça, je vous assure, je parle des choses. Voilà.
Merci beaucoup, Hicham El Abestaghi, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Sachez aussi que vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité en podcast sur l'application Lux Radio. Heure essentielle se poursuit tout de suite. La revue de presse internationale, c'est avec vous. Alors.